êtes bien sur Radio Orient. Voici votre magazine d'information avec vous, Nadia Bencher et François-Xavier de Calonne. À la une de ce magazine, plusieurs dizaines de Palestiniens tués ce mercredi selon la défense civile dans des frappes israéliennes à travers l'enclave palestinienne. L'Italie annonce aujourd'hui l'envoi d'une frégate militaire pour porter assistance à la flottille pour Gaza. Une nouvelle mobilisation sociale prévue en France le jeudi 2 octobre prochain. Et puis notre dossier du jour, c'est l'actualité de la semaine en France, la reconnaissance par Paris de l'État palestinien lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Question, quel est le regard des citoyens en France sur cet acte historique? Question posée à un éminent politologue, Roland Cayrol, entretien dans votre magazine. Bonsoir à tous. Pas de répit dans la bande de Gaza. Plusieurs dizaines de Palestiniens ont été tués ce mercredi selon la défense civile dans des frappes israéliennes à travers l'enclave palestinienne. Israël intensifie son opération militaire contre le Hamas à Gazaville. La défense civile ainsi que les hôpitaux ont évoqué plusieurs opérations de l'armée israélienne qui ont eu lieu au cours de la nuit dernière, principalement dans la ville de Gaza, mais aussi dans le sud du territoire palestinien entre Rafah et Khan Younes. L'Italie a annoncé aujourd'hui l'envoi d'une frégate militaire pour porter assistance à la flottille pour Gaza, elle qui s'est dite ciblée par des attaques nocturnes de drones au large de la Grèce. La diplomatie italienne a demandé à Israël d'assurer la sécurité de la flottille, rappelant qu'elle se trouve dans les eaux internationales. Les navires de la flottille veulent rejoindre la bande de Gaza dans l'objectif de briser le blocus israélien après deux tentatives bloquées en juin et juillet. Cette affirmation du président iranien Massoud Pezeshkian assure ce mercredi à la tribune de l'ONU que son pays ne veut pas se doter de l'arme nucléaire. Il rejette ainsi les accusations des Occidentaux. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a aujourd'hui rejeté tout compromis sur la question de l'enrichissement d'uranium. C'est un point de friction majeur avec les pays occidentaux concernant le dossier nucléaire iranien. Une fin de non-recevoir de Téhéran quelques jours avant un possible retour des sanctions onusiennes contre l'Iran. Une rentrée sociale agitée en France. Une nouvelle mobilisation est prévue le jeudi 2 octobre prochain. L'intersyndicale a estimé aujourd'hui, après plus de deux heures d'entretien à Matignon, que le Premier ministre n'avait pas répondu à leurs revendications. Le monde du cinéma et plus largement de la culture en deuil après la disparition de Claudia Cardinale, cette immense actrice amoureuse de la Tunisie. Franco-italienne, Claudia Cardinale est décédée hier. Née à Tunis, ce monument du cinéma a tourné avec les plus grands, dont Federico Fellini, Henri Verneuil ou encore Sergio Leone. Avec la disparition de Claudia Cardinale, c'est un livre entier qui disparaît, ce livre de ce 20e siècle qui en Tunisie était beaucoup construit par ces femmes qui ont trouvé dans la terre tunisienne une inspiration incroyable, nous dira Olivier Poivre d'Arvor, ex-ambassadeur de France en Tunisie, aujourd'hui ambassadeur pour les pôles. Il a très bien connu Claudia Cardinale. Il sera l'invité de Grand Angle à 18h. C'est la fin de votre point d'actualité. Place à présent au dossier de votre magazine. Vous êtes bien sur Radio Orient. Place au dossier du jour. C'est l'actualité de la semaine en France, la reconnaissance par Paris de l'État palestinien lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Un événement annoncé depuis plusieurs mois, porté conjointement par la France et l'Arabie saoudite. Question, quel est le regard des citoyens en France sur cet acte historique? Question posée à un éminent politologue, Roland Cayrol, auteur de « Alerte mondiale démocratie en danger, une perspective géopolitique » publiée aux éditions de l'Aube. Roland Cayrol, on l'écoute.
C'est une avancée. Je crois d'ailleurs il faut voir toutes les réactions à cette décision pour montrer, pour mesurer à quel point c'est en effet un changement et un changement marquant. Voilà, la Palestine fait désormais partie des références positives et il était temps Le temps est venu, a dit Macron, de reconnaître cet État palestinien. En même temps, évidemment, on peut se dire qu'il y a déjà 151 pays qui ont reconnu l'État palestinien. Mais enfin, la France entraîne avec elle une dizaine de pays occidentaux qui avaient encore freiné. C'est donc un événement quand même important, à la fois au point de vue français et au point de vue mondial. Il y a là, pour la Palestine, je crois, un atout, un allié qui manquait un peu et qui va compter dans la suite.
Comment cette reconnaissance de la Palestine par Paris est-elle perçue aujourd'hui par l'opinion? Les personnes qui s'y opposent mettent en lumière le fait que le Hamas dirige la bande de Gaza. Les personnes qui défendent cette reconnaissance soulignent qu'Emmanuel Macron et Mahmoud Abbas également ont assuré que le Hamas ne ferait bien entendu pas partie d'une gouvernance palestinienne. Comment cela est accueilli par l'opinion?
L'opinion dans les sondages précédant immédiatement cette reconnaissance était favorable à la reconnaissance près des deux tiers des Français. Donc il y a tout de même un acquis positif dans l'opinion pour la Palestine et pour cette reconnaissance. Dans ceux qui s'expriment dans la vie politique, évidemment, c'est plus marqué en termes de réprobation ou de doute. On voit bien que la droite, même gouvernementale en partie, comme M. Retailleau, que l'extrême droite sont très réticentes envers ce genre de reconnaissance. Et donc il va y avoir, je crois, dans la vie politique française, une résurgence d'une opposition un peu plus frontale. D'autant que dans l'opinion, l'opinion suit un peu les partis politiques dont je viens de parler.
Est-ce qu'à travers cette reconnaissance, Emmanuel Macron a renoué avec la diplomatie, disons, originelle de la Ve République?
Oui, c'est ce qu'on a appelé la politique arabe de la France. C'est en effet renouer avec ce qu'a dit le général de Gaulle dès 1967 et qui a été au fond le marqueur de ce qu'a été ensuite la politique de la France sous Mitterrand et sous tous les présidents de la République. Donc oui, on avait un peu oublié cette politique dans les 15 ou 20 dernières années, et Emmanuel Macron renoue là avec ce qui a été cette tradition de la politique dite arabe de la France.
Et lorsque vous écoutez aujourd'hui Dominique de Villepin, par exemple, s'exprimer sur la question palestinienne, ses propos suscitent l'adhésion d'une partie de la gauche, et notamment de la gauche radicale. Alors, une question, est-ce que c'est Dominique de Villepin qui a changé, ou alors l'opinion qui a changé sur cette question?
Je crois que c'est un mélange. Je crois que Dominique de Villepin a précisé encore une pensée qu'il avait déjà dans les années 2003-2004. On se souvient de ses positions sur la guerre du Golfe, de son intervention aux Nations Unies. Donc Dominique de Villepin, il a toujours eu un tropisme de ce côté-là, mais en même temps, il a affirmé là plus clairement sa position. Et Dominique de Villepin, il est devenu un personnage qui est d'abord admiré et suivi par les électeurs de gauche. Au fond, chaque fois que Dominique de Villepin s'exprime, on voit bien dans les sondages que ceux qui sont d'accord, c'est les électeurs de gauche, voire les électeurs de la France insoumise, et beaucoup moins aujourd'hui les électeurs de droite.
Le politologue Roland Kayrol, interrogé par François-Xavier de Calonne. Donald Trump a lancé une attaque en règle contre l'ONU et l'Europe. Le président des États-Unis a mis en avant sa vision anti-immigration et climato-sceptique. Il a aussi opéré un revirement majeur en estimant que l'Ukraine pouvait gagner la guerre contre la Russie. François-Xavier de Calonne.
Eh oui, Nadia, et bien malin celui qui pourrait anticiper l'humeur de Donald Trump. Et c'est le Donald Trump des mauvais jours qui s'est exprimé mardi lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le président des États-Unis s'en est vivement pris à l'Organisation des Nations Unies, une organisation inutile, selon Donald Trump. Quel est le but des Nations Unies ? C'est son interrogation. Le président américain a reproché à l'ONU de ne pas l'avoir aidé dans ses entreprises de médiation. Les deux choses que j'ai eues des Nations Unies, c'est un escalier mécanique défaillant et un téléprompteur défaillant. Or, c'est une référence à des problèmes techniques pendant son arrivée, un escalator en panne et une panne de prompteur, cela arrive. Mais cela n'a pas fait sourire la Maison-Blanche, qui a appelé à renvoyer immédiatement toute personne susceptible d'avoir provoqué l'arrêt intempestif de cet escalier mécanique. Donald Trump, qui a lancé une grande opération d'expulsion d'immigrés en situation irrégulière, a aussi reproché à l'ONU de financer une attaque contre les pays occidentaux et leurs frontières avec ses programmes d'aide aux migrants. Il est temps de mettre fin à l'expérimentation ratée des frontières ouvertes. Vos pays vont en enfer, des mots de Donald Trump. Il a aussi attaqué les pays européens pour leur politique de soutien aux énergies renouvelables, avec des propos plus que climato-sceptiques. Le changement climatique est, selon lui, la plus grande arnaque jamais vue.
Donald Trump s'est aussi rapidement exprimé sur les conflits qui ensanglantent la planète.
Et notamment sur la question palestinienne. Pour Donald Trump, la reconnaissance d'un État de Palestine constitue une récompense pour les atrocités commises par le Hamas. Des propos après que la France, bien entendu, s'est ajoutée à quelques 150 pays qui s'inscrivent déjà dans ce mouvement historique. Pour le président français qui s'est entretenu avec Donald Trump, la solution militaire ne fonctionne pas pour vaincre le Hamas à Gaza. Le président américain s'est entretenu avec les dirigeants de plusieurs pays musulmans, comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Indonésie ou encore la Jordanie. Ce fut une réunion très fructueuse avec tous les grands acteurs, à l'exception d'Israël, mais cela viendra ensuite, a-t-il déclaré, émettant l'espoir de trouver une solution pour Gaza.
Mais c'est sur l'Ukraine, François-Xavier, que l'imprévisible président a pris tout le monde de court.
Vous l'avez dit, imprévisible président, il a radicalement changé de doctrine dans ce dossier. C'était après avoir reproché à l'Inde et à la Chine d'être les premiers soutiens financiers de la machine de guerre russe en Ukraine. Après une rencontre avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, il a estimé que Kiev pourrait regagner son territoire dans sa forme originelle et peut-être même aller plus loin face à la Russie. Cela fait, a-t-il écrit sur son réseau social, 3 ans et demi que la Russie mène sans direction claire une guerre qu'une vraie puissance militaire aurait remportée en moins d'une semaine. Donald Trump a aussi jugé que les pays de l'OTAN devraient abattre les appareils russes violant leur espace aérien. Alors, c'est arrivé plusieurs fois ces dernières semaines, on s'en souvient, des avions de chasse qui ont par exemple survolé pendant environ 13 minutes l'Estonie. S'exprimant peu après, eh bien, le président ukrainien s'est satisfait de ce grand tournant de Donald Trump. Il a aussi estimé que la Chine pourrait, si elle le voulait, contraindre la Russie à mettre fin à la guerre en Ukraine.
Merci François-Xavier, c'est la fin de ce magazine d'information. Merci à Raymond Jouan pour la réalisation. C'était Nadia Bencher et François-Xavier de Calonne. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur Radio Orient.